Dimanche 28 juillet. Sans Roxy, sans Nathan, sans sa mère, la maison lui semble très calme. Elle et les enfants, personne d'autre, par un long dimanche nuageux. Roxy lui a écrit de l'hôpital tout à l'heure pour lui dire qu'Erin était encore inconsciente, branchée, toujours dans un état critique. Et tout autour d'elle, la nouvelle déferle comme un lent tsunami insoutenable. L'horreur de tout cela est trop immense pour qu'Alix puisse l'intégrer complètement. Ses sœurs lui écrivent sans cesse. Alors qu'elles devraient être en train d'échanger des messages pour leurs prochaines vacances, de partager des photos des robes qu'elles viennent d'acheter, de se demander des recommandations de lecture, de chercher à savoir s'il y a des sèche-cheveux dans la villa, de réserver des restaurants pour les dîners puisqu'il est impossible de trouver une table pour autant de convives sans s'y prendre à l'avance. Alix devrait être en train d'essayer des maillots de bain dans sa chambre, où les miroirs permettent de se voir aussi de dos, en se demandant si elle peut encore assumer un bikini à 45 ans, avant de se dire que, mon Dieu, oui, bien sûr, et que si elle ne le fait pas maintenant, quand le fera-t-elle? Elle devrait être en train de rentrer le ventre et de se tourner d'un côté et de l'autre en se disant qu'elle n'est pas mal, pas mal du tout pour une quarantenaire ayant eu deux enfants. C'est ce qu'elle devrait être en train de faire. Au lieu de cela, elle est emmurée dans un compte à rebours glauque, cauchemardesque et interminable. Elle est donc soulagée quand, à 14h de ce dimanche interminable, Pat O'Neill l'appelle de l'hôpital.
« Roxy m'a parlé de votre podcast, de ce que Josie vous a raconté. Et je pense, Alix, pour le bien de la vérité, pour la balance des choses, que je devrais venir vous parler. Vous raconter ma version des faits. » Parce que j'imagine que vous pensez que je suis une mauvaise mère, et de bien des façons, c'est vrai. Mais je crois que pour espérer trouver du sens dans ce qui vous arrive, il faut que vous puissiez comprendre la véritable nature de Josie. « Vous pouvez venir maintenant ?» demande Alix. Elle lui donne son adresse et va s'asseoir dans la cuisine en attendant qu'elle arrive. « Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. » Dans une reconstitution, une jeune fille est assise dans un appartement moderne et lumineux. Elle a un carré court, châtain, et s'amuse avec un jouet par terre. Une actrice incarnant Pat O'Neill discute avec un homme dans la cuisine de l'appartement. Elle rit à ce qu'il vient de lui dire. L'actrice jouant la jeune Josie les regarde avec curiosité. Un bandeau apparaît. Enregistrement de Pat O'Neill, le 28 juillet 2019.
C'est vrai, je n'étais pas prête à devenir mère quand j'ai eu Josie. Pas prête pour un sou. J'arrivais à la fin de ma deuxième année de licence en anthropologie sociale. C'était le meilleur moment de ma vie. Je me sentais tellement vivante, pleine d'énergie. Et je voulais continuer, tracer mon chemin, voir jusqu'où je pouvais aller. Puis je suis tombée enceinte et, parce que ça ne se voyait pas trop, je n'en ai pris conscience que quand c'était trop tard pour y remédier. Le père de Josie était parti depuis longtemps à ce moment-là. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à me souvenir de son nom de famille. C'est horrible, n'est-ce pas? Je crois que ça commençait par un... K... Kelly, peut-être. Bref. Josie est arrivée et je n'étais pas prête. Non, je n'étais pas prête à devenir mère. Mais surtout, je n'étais pas prête à devenir celle de Josie.
L'actrice incarnant Josie dans la reconstitution se tourne vers la caméra.
C'était une enfance sombre. Et oui, c'est certainement en partie de ma faute à cause de ma façon de voir la maternité. Je voulais qu'elle soit indépendante, qu'elle soit forte, résiliente. Je l'ai probablement laissée seule trop souvent. Mais c'est important tout de même que les enfants commettent leurs propres erreurs et en tirent les leçons. Ce n'est pas bon de ne jamais les laisser faire de bêtises. Josie avait tellement besoin d'attention. Tellement. Je lui ai donné ce que je pouvais. Mais c'était jamais suffisant. Et ce n'était pas que moi, ses amis aussi. J'en ai été témoin. Chaque fois. Elle était tellement négative avec les autres. C'était comme si elle attendait en permanence que les gens lui prouvent qu'ils ne voulaient pas d'elle. Elle a rejeté tellement d'amis pour des broutilles. Et moi, il n'était pas concevable que j'aie un compagnon. C'était insupportable pour elle. Vraiment impossible. Elle devenait folle dès qu'un homme entrait dans ma vie. Elle leur faisait des misères, les insultait, faisait semblant d'être malade dès que j'avais un rendez-vous. Elle a même fabriqué une poupée vaudou d'un homme que je fréquentais une fois. Je rigole pas. Elle y plantait des épingles quand il venait me voir. Donc aucun d'eux n'a tenu, bien sûr. Et puis j'ai commencé à sortir avec Walter. La voix d'Alix l'interrompt. Pardon ? Oui, on a commencé à se fréquenter. Josie avait environ 13 ans. Un long silence s'ensuit. Josie ne m'en a rien dit. Bien non, évidemment, parce qu'elle ne vous a raconté que ce qu'elle voulait que vous sachiez, ce qui servait son récit. Et c'est pour ça que je voulais vous parler, vous comprenez ? Parce qu'il y a plein de choses que Josie ne vous a pas racontées. Et le fait qu'elle disparaisse en faisant croire au monde que son mari était un monstre, qu'il l'a manipulé, qu'il a abusé de leurs enfants, les gens ont besoin de savoir que c'est n'importe quoi. Vous avez besoin de savoir que c'est n'importe quoi. Walter Fair n'était pas un homme parfait. Il était autoritaire. Il aimait que les choses se fassent comme il l'entendait. Il était imbu de lui-même, oui. Et bien sûr, je savais que c'était immoral, qu'il ait une liaison dans le dos de sa femme, j'en étais consciente. Mais c'était aussi un homme affectueux, un homme affirmé qui voulait aimer et être aimé. Il voulait une vie paisible, c'est tout. Et ce qu'il y avait entre nous, c'était vrai, intense. Et j'étais prête à attendre qu'il trouve le bon moment pour quitter sa femme. Au début, Josie se méfiait beaucoup de lui. Comme de tous mes amis. Mais en grandissant, elle a développé une obsession pour lui. Elle essayait toujours d'attirer son attention, à mon détriment. Elle se maquillait dès qu'il venait, elle lui racontait des choses négatives à mon égard, lui disait que j'étais vieille et grosse. Au début, nous en rions avec Walter. Mais au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Quand Josie avait 16 ans, je dirais. Et puis quand elle en a eu 18, ils m'ont dit. Il y a un long silence. Alix reprend la parole. Donc vous ne saviez pas ? Avant ça, vous ignoriez qu'ils étaient ensemble ? Pas de soupir. Bien sûr, j'aurais dû le savoir. J'étais sa mère, j'aurais dû le savoir. Et j'assume cette responsabilité, je n'ai pas été à la hauteur. J'avais tellement envie que Josie soit indépendante, qu'elle ait sa propre vie. Tout ce que je voulais. Et je sais que ça a l'air terrible. Mais c'était la refiler à quelqu'un d'autre. Qu'elle soit plus à la maison. Je détestais qu'elle soit là, elle créait cette ambiance, cette atmosphère. Je voulais pas lui parler. Pardonnez-moi, mon Dieu, mais je ne l'aimais pas. Donc je ne lui demandais jamais où elle allait, ce qu'elle faisait. Je voulais pas savoir. J'étais contente de ne pas avoir à m'occuper d'elle. Mais, mon Dieu, le choc quand j'ai appris. L'horreur totale. Et vous savez, quand nous étions ensemble avec Walter, Josie me disait tout le temps que je la dégoûtais à sortir avec un homme marié. Et puis elle s'est mise en chasse et l'a dérobée à sa femme et à moi. Donc, selon vous, ce n'est pas Walter qui a séduit Josie ? Séduit, dans le sens où il aurait manigancé des choses pour qu'elle tombe amoureuse ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle l'a vu, qu'elle l'a voulu, et qu'elle l'a eu. Peu importe qui elle blessait au passage. Ça n'a jamais été une question pour elle. Elle, je sais que c'est absolument terrible de dire cela de sa propre enfant. Et je n'ai pas été parfaite moi-même, loin de là. Mais je crois sincèrement qu'elle a un cœur de pierre. Un pur cœur de pierre. L'écran fond au noir, puis Pat O'Neill apparaît, assise dans une salle commune. Elle secoue la tête lentement, les larmes aux yeux. 18h. Après le départ de Pat, Alix reste engourdie un moment. Sa mère arrive et prépare le repas pour les enfants, les fait manger, s'assied avec eux pendant le dîner, écoute leurs histoires, et crée une ambiance de calme, de paix, qui est hors de portée pour Alix. Je crois qu'il est mort, annonce-t-elle à sa mère quand elles sont seules dans le jardin un peu plus tard. Sa mère la regarde, inquiète. Non, non, bien sûr que non. Si, je te jure. Je le sens. Tout ce temps, je pensais que Josie était étrange parce qu'elle était traumatisée. Tout ce temps, je pensais qu'elle cherchait de l'aide, qu'elle avait besoin de moi. Mais elle me menait en bateau depuis le début. Tout le temps. Je n'étais qu'un pion. Comme l'était Nathan. Mais pourquoi... Pourquoi est-ce qu'elle aurait voulu lui faire du mal? Elle le connaissait à peine. Écoute, elle m'a clairement signifié tout le mal qu'elle pensait de lui. Qu'elle était persuadée que je serais mieux sans lui. Elle m'a même demandé une fois ce que je ressentirais s'il devait mourir, et elle a eu l'air vraiment déçue quand je lui ai répondu que je serais triste. Quand elle m'a suggéré la première fois de faire un podcast sur elle, elle m'a grosso modo dit qu'elle se lançait dans un changement de vie total et qu'elle voulait le documenter. Tu crois que tout ce qui est arrivé était planifié? Je sais pas encore comment, mais oui, c'est ce que je pense. Enfin... Elle savait qu'Erin avait cet argent sur son compte et a trouvé le moyen d'avoir son code, de retirer tout ce liquide et de payer quelqu'un pour entraîner Nathan dans cet hôtel. Elle savait que Nathan sortait ce soir-là parce qu'il le lui avait dit. Tu sais, quand elle est partie, j'ai trouvé étrange que cela se passe si facilement. Qu'elle ne soit pas en colère, qu'elle cherche pas à rester. Mais maintenant, je sais que c'était parce que ça faisait partie de son plan. Je pense vraiment qu'elle l'a enlevé pour le tuer, maman. Sincèrement. Chaque seconde qui passe est une seconde de perdue pour sa survie. Je sais pas quoi faire, maman. Je sais vraiment pas quoi faire. Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. L'écran montre Tim, Angel et Fred. Un bandeau apparaît. Tim et Angel Eddingfold Clark, famille d'accueil de Fred, le chien de Josipher. Angel donne un biscuit à Fred. La caméra se resserre sur le chien pendant qu'il mange, puis le cadre s'élargit. Tim prend la parole.
Nous ne savions absolument pas que Josie était recherchée, bien entendu. Nous étions en lune de miel, nous ne regardions pas la télé et ne suivions pas les infos. Ce n'est que quand nous avons commencé à écrire à nos amis pour leur raconter cette histoire qui venait de nous arriver, cette femme qui nous avait donné son chien, et que nous avons eu des réponses du style « Tu sais que c'est peut-être la femme que la police recherche ?» Et nous, on était genre « Quelle femme ?» On est allé sur Internet et on a vu les photos, celles de Josie, et... Ouais, c'était elle. Du coup, bien sûr, on est tout de suite allé voir la police, immédiatement.
À l'écran apparaît l'agent Albright.
Nous avons reçu un appel de la gendarmerie de Cumbria le samedi 27 juillet. Ils avaient pris la déposition d'un couple de vacanciers à qui on avait donné un petit chien quelques jours plus tôt. Ils assuraient que les portraits de Josie Fair qu'ils avaient vus en ligne correspondaient à la femme qui leur avait laissé le chien. Ils disaient qu'ils l'avaient croisée en plein jour, dans un lieu touristique, et que tout s'était passé très rapidement. Ils ont pu nous donner une idée de la tenue qu'elle portait. Elle essayait de se cacher avec une capuche et des lunettes de soleil. Selon eux, après leur interaction, elle avait pris la direction du centre d'Humbleside en tenant un petit sac à main. Nous avons immédiatement lancé une enquête dans le village, en faisant du porte-à-porte. Mais ce n'est que très tard, le dimanche, que nous avons enfin eu une piste. Une famille qui dînait dans un restaurant nous a dit qu'une femme qui lui ressemblait, avec un petit chien, avait loué un bungalow dans le camping où il résidait. Qu'elle était arrivée le dimanche précédent en milieu de journée et qu'elle était repartie le jeudi matin. Nous avons contacté la direction du camping, qui nous a confirmé que, en effet, Madame Fair avait réservé un bungalow en ligne 2 semaines plus tôt. Ils nous ont appris que les résidences étaient accessibles avec un code et qu'ils n'avaient pas rencontré Madame Fair en personne, qu'ils ignoraient qu'elle était partie jeudi, étant donné que sa réservation courait jusqu'à la fin du week-end, et qu'elle ne leur avait pas signalé son départ. Nous avons envoyé une équipe sur place et nous sommes entrés dans les lieux juste avant minuit, ce dimanche soir.
À l'écran, apparaissent des images d'archives de voitures de police arrivant dans le camping au bord du lac, alors qu'il fait nuit, leurs sirènes bleues se reflétant sur la surface sombre de l'eau. Un enregistrement de la police commence.
Début de l'intervention de la brigade fluviale. Je répète, intervention en cours de la brigade fluviale. Tenez-vous prêts.
Il y a un fondu au noir, puis un plan artistique du lac envahit l'écran, accompagné d'une musique douce. Il fait jour et le soleil scintille à la surface de l'eau. Une nuée d'oiseaux vole et tournoie dans le ciel. La caméra remonte vers le soleil,
jusqu'à ce que l'écran soit dévoré par le blanc. 23h. Ce soir-là, Roxy appelle Alix, qui vient de s'installer au lit. Comment va Erin?
Rien de nouveau, mais apparemment ses constantes s'améliorent d'heure en heure. Il pense qu'elle devrait se réveiller prochainement. Et vous? Vous avez des nouvelles?
Pas encore. J'imagine qu'il est un peu tard maintenant.
Demain, j'espère. Alix s'interrompt.
Votre grand-mère m'a parlé de la relation qu'elle avait avec Walter aujourd'hui. Elle m'a dit qu'ils étaient en couple.
Berk, ouais, je sais. C'est dégueu, hein. Tout ça, ma famille... Je suis désolée.
Désolée? Pourquoi?
Que vous vous soyez retrouvés mêlés à ça. Qu'elle vous ait traîné là-dedans. Que vous soyez même au courant de ces histoires.
C'était mon choix, Roxy. Je suis allée la chercher, vous savez. Je n'étais pas obligée d'aller à la retoucherie ce jour-là. Je n'avais pas à accepter sa proposition de faire un podcast. Je n'avais pas à la laisser dormir ici quand elle m'a annoncé que votre père l'avait frappée. J'aurais pu mettre un terme à tout ça n'importe quand. Mais je l'ai laissé me manipuler. Au fond, c'est ma faute. Tout est ma faute.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, ma mère? Reprend Roxy après un silence pensif.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire?
Alix s'immobilise et réfléchit quelques instants à cette question.
Honnêtement, je crois que je m'ennuyais, Roxy. J'étais désœuvrée. J'avais des soucis avec mon mari. J'étais pleine de colère, de ressentiment, d'une rage sourde. Votre mère a débarqué avec ses histoires et, en comparaison, mes problèmes n'étaient que des broutilles et je crois que ça m'a donné l'occasion d'arrêter de me concentrer sur ce qui merdait dans ma propre vie. C'est tout. C'était une distraction. J'ai fait taire ma raison en acceptant. Et je l'ai fait en connaissance de cause. Parce que je suis mes instincts depuis tellement longtemps. Cela fait tant d'années que je prends les bonnes décisions. Je crois qu'une partie de moi voulait voir ce qu'il se passerait si je les ignorais pour une fois. Et j'étais un peu irresponsable. Comme si en conduisant sur des routes de montagne, vous décidiez de fermer les yeux un instant, juste pour voir ce qui arrive. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on en est là.
Elle raccroche et Alix place le portable sur sa table de chevet. Elle s'apprête à prendre son livre quand le cri d'un renard l'interpelle. Elle sort du lit et marche jusqu'à la banquette sous la fenêtre qui donne sur le jardin. Elle s'installe, amène les pieds sous son corps et observe les deux renards qui jouent dans son jardin au clair de lune. Avec Nathan, ils ont plusieurs fois regardé ensemble les renards par la fenêtre, lovés ici. Et elle sent les échos de ses souvenirs la traverser, des pieds à la tête. Nathan en caleçon, une brosse à dents dans la bouche venant s'asseoir à côté d'elle. Son odeur, qu'est-ce que c'était déjà? Une odeur si caractéristique, comme celle des voitures, des livres, des arbres. Le reflet de la lune sur la peau de son dos. Et ce qu'elle appréciait tant. Le poids rassurant de son corps à côté d'elle dans le lit, même si elle a parfois souhaité avoir sa propre chambre. Puis elle se souvient d'un moment, il y a quelques semaines, dans le studio avec Josie, quand cette dernière lui a raconté la fausse histoire de sa rencontre avec Walter.
Puisque nous sommes jumelles d'anniversaire, je crois qu'il serait normal que vous me racontiez votre rencontre avec Nathan.
C'était comment? Lui avait-elle demandé.
Vous vous êtes rencontrés où?
Alix passe rapidement une robe de chambre et descend silencieusement l'escalier, traverse la maison, ouvre la porte du jardin dans lequel les renards lui lancent un regard de défi avant de disparaître dans les fourrés. Elle déverrouille le studio et met son casque, parcourant ses enregistrements jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle cherche. La voix de Josie résonne, ce ton étrange, vide, sans modulation ni émotion, qui demande à Alix
« Vous vous êtes rencontrés où ?»«
Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. » Une série originale Netflix.
La caméra quitte le soleil blanc et survole les eaux calmes du lac Windermere. Le drone dérive lentement le long de la berge, tandis que la voix d'Alix se superpose aux images. Un bandeau apparaît. Enregistrement du podcast d'Alix Summer, juin 2019. J'avais presque 30 ans quand nous nous sommes rencontrés. Je commençais à désespérer de trouver quelqu'un. Je travaillais dans l'édition à ce moment-là, un milieu très majoritairement féminin, et les chances d'y rencontrer un homme étaient proches du néant. Je vivais avec ma sœur, Zoé. Nous étions constamment célibataires. Zoé avait 2 ans de plus que moi et elle avait déjà lâché l'affaire. Moi, je croyais encore que quelqu'un m'attendait quelque part, vous voyez. Je le sentais dans l'air, presque. Et je l'entendais qui se rapprochait de moi. Donc je continuais à faire des efforts, soirée après soirée. Mais rien. Personne. Josie l'interrompt. Je peux pas y croire. Une femme comme vous. Si belle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, croyez-moi. Et puis un soir, juste avant mon anniversaire, je rentrais à la maison. J'étais ivre. Et je me suis souvenu que j'avais un vêtement à aller récupérer au pressing. Cela faisait des semaines que j'oubliais et, pour une raison incompréhensible, j'ai choisi d'y aller à 21h un mardi soir alors que je venais de boire une demi-bouteille de vin et un gin tonic. Dans la boutique devant moi, il y avait cet homme qui récupérait des chemises avec les cheveux roux vifs, grand, bien habillé, bien bâti. Mais c'était sa voix. La première chose, sa voix, débordante de confiance. Pas d'arrogance, c'était juste une très belle voix. Quand il a payé, il s'est retourné et j'ai vu son visage. Et je peux pas l'expliquer. J'ai vu son visage et je me suis dit, c'est toi. C'est toi. Comme si je le connaissais déjà. Comme si on m'avait parlé de lui. Bien sûr, c'était pas le cas, personne ne m'avait rien dit. Mais je savais. J'ai dit quelque chose de gênant, style « ça fait beaucoup de chemises, ça ». Et il s'est arrêté. J'avais bu, il était sobre et je crois qu'il s'est dit qu'il allait se moquer un peu de moi. Il m'a dit « oui, j'en mange énormément ». J'ai répondu « désolé, j'ai un peu bu ». Il m'a rétorqué « ça se voit ». Il me dévisageait et ses yeux étaient de cette couleur. Je sais même pas s'il y a un mot pour la décrire. La nuance la plus incroyable de rien du tout. J'ai récupéré ma veste et il m'a proposé d'aller au pub. Et voilà. 2 ans plus tard, nous étions mariés. 1 an après, j'étais enceinte d'Elisa. La scène douce d'image du lac s'interrompt brusquement. Un studio d'enregistrement vide apparaît à l'écran. La voix de Josie résonne. Vous l'aimez encore? Bien sûr, oui. Mais vraiment, est-ce que vous l'aimez toujours? Comme à ce moment-là? Comme au pressing? Quand vous ne saviez encore rien de lui? C'est un type d'amour différent, mais oui, je l'aime. Vous ne vous dites jamais que votre vie serait plus belle si vous étiez seule? Non, jamais. Et pourtant, vous vous considérez comme une féministe? Oui, effectivement. Je peux être mariée, heureuse avec mon mari et être féministe. Je ne crois pas. Pour moi, on ne peut être féministe que célibataire. C'est un point de vue intéressant. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous pensez ça? Je ne devrais pas avoir besoin de le faire, Alix. Vous devriez comprendre ce que je vous dis. Un court silence s'ensuit, puis Josie reprend. Vous devez être libre pour décider de votre vie, Alix. Vous devez être libre, sans bagage. Une coupe franche. Comme le dit votre amie Marie Lejeune dans votre podcast, vous vous souvenez de ce qu'elle disait sur les coupes franches? Vous vous rappelez? La bande audio avance rapidement, puis revient en arrière. Une autre voix se fait entendre. Un bandeau apparaît. Marie Lejeune, interviewée par Alix Summer pour son podcast « Toute femme ». Ces mots apparaissent comme un texte mouvant à l'écran.
Et si atroce que cela puisse paraître, la mort est une coupe franche, il n'y a pas de zone grise, pas d'ambiguïté. D'une certaine façon, c'est une page blanche. Josie Fair reprend la parole. Parfois, Alix, Vous ne pensez pas que tout serait plus simple s'ils étaient morts ?
Fondu au noir. Minuit 45. Alix appuie sur pause et retire son casque. Elle s'enfonce dans son fauteuil, rejette la tête en arrière et soupire longuement. Et voilà. C'était sous ses yeux depuis le début. Elle n'a pas compris. Elle ne se souvenait pas de ce que Marie Lejeune lui avait raconté sur les coupes franches et la mort. Sur le moment, elle s'est dit que Josie divaguait. Quand en réalité, elle lui exposait son manifeste malsain, pas à pas, pour qu'Alix le comprenne. Et elle n'en a rien vu. Ça, comprend désormais Alix, c'est ce que Josie voulait partager avec elle quand elle l'a approchée devant l'école des enfants avec cet air un peu désespéré. Elle avait eu une révélation et voulait qu'Alix en soit la dépositaire. Elle le lui a exprimé au cours des entretiens. Et Alix a tout raté. De A à Z. Elle tape des poings sur son bureau et crie de rage et de frustration, consciente de son aveuglement.
Quelle conne, mais quelle conne !
Puis elle se reprend, en entendant son portable sonner et voit le numéro de l'agent Albright s'afficher. Elle regarde l'horloge, presque 1 heure du matin. Son estomac se soulève. Elle inspire jusqu'à ce que ses poumons se remplissent. Puis elle appuie sur « répondre » et attend que Sabrina prenne la parole. Le trajet est interminable. Les enfants sont chez Maxine et il est presque 2 heures du matin. Alix repense aux mots de Sabrina au téléphone. Il y a ce qui lui semble une éternité. Une petite heure et demie plus tôt. Il était là, Alix, c'est certain. Entravé, gardé de force. Il y a des liens, des signes de lutte. Et des traces qui mènent au lac. Donc ce qu'on fait, Alix, c'est qu'on lance maintenant une opération de sauvetage en milieu lacustre, tout de suite. Des bateaux vont également patrouiller sur toutes les rives, au cas où ils auraient traversé. Alix, je crois que vous devriez nous rejoindre ici dès que possible. Est-ce que quelqu'un peut vous conduire ? Avec sa mère, elles sont en voiture depuis presque 1 heure et sont à peine sorties de Londres. Alix se sent fébrile et vide. Elle n'a rien mangé de la journée. Tout ce qu'elle a dans l'estomac, ce sont les restes du verre de vin qu'elle a partagé avec sa mère dans le jardin vers 21h. Elle devrait se nourrir, mais elle ne peut rien avaler et elle ne veut pas faire de pause qui rallongerait ce voyage déjà trop long. Il se perd sur son téléphone, mécaniquement, sans but, douloureusement. Elle regarde tous les messages qu'on lui a envoyés ces derniers jours, venant de gens qu'elle n'a pas vus depuis des années, à qui elle ne pense jamais, mais qui tous l'aiment et la soutiennent, et elle voudrait leur répondre à tous. C'est impossible. Elle ne trouve pas les mots et ne saurait les organiser en phrases. Puis ça ne servirait à rien de toute façon. Donc elle ferme son appli de messagerie et fixe le vide noir de la nuit, illuminé de temps en temps par les phares d'une voiture se rendant à Londres tandis qu'elle s'en éloigne. Et les kilomètres passent lentement. Le Lake District est si loin. Son mari est là, quelque part. Elle s'apprête à découvrir où il se trouve et elle l'aime passionnément. Elle se déteste tant d'avoir permis à cette femme d'entrer dans leur vie, dans leur existence compliquée, désordonnée, fracturée et parfaitement imparfaite. Qu'elle croyait ne plus vouloir, mais qu'elle sait désormais être la seule chose qu'elle désire vraiment. Sa famille, sa maison. Son mari décevant, ses beuveries et la normalité désespérée, honteuse et ridicule de tout cela. Elle veut cette vie, elle le veut lui, elle veut ça, mais certainement pas ceci, ce trajet interminable, les phalanges blanches de sa mère serrant le volant de sa voiture, les lumières aveuglantes, la faim retentissante dans son ventre, ce vide absolu qui lui donne la nausée. Elle veut retrouver Nathan, elle veut qu'il lui revienne. Puis elle sent son portable vibrer dans sa main et allume l'écran. Il y a une notification d'un numéro qu'elle ne reconnaît pas. Son souffle se contracte dans ses poumons quand elle ouvre le message. Quand elle voit ce que c'est, elle sait. Même avant l'appel de l'agent Albright quelques minutes plus tard. Alix sait déjà.
Bonsoir, je suis votre jumelle d'anniversaire. Une série originale Netflix. À l'écran s'affiche une archive audiovisuelle. Une journaliste à l'aube devant un océan de gyrophares de police, d'agents et de reporters, micro à la main. Au loin, le soleil levant se reflète sur le lac Windermere. Un bandeau apparaît. Lac Windermere, 5h27, 29 juin 2019. La journaliste s'exprime d'une voix révérencieuse. Je me trouve ce matin à proximité du beau village d'Ambleside, sur les rives du lac Windermere, dans le Lake District en Cumbria. Cette nuit, une sinistre découverte y a été faite. Le corps d'un homme originaire du nord de Londres, Nathan Summer, qui avait disparu d'un hôtel de la capitale dans la nuit du samedi au dimanche 21 juillet, a été retrouvé dans les bas-fonds de Windermere, juste derrière moi, il y a quelques heures. L'enquête des policiers les avait menés jusqu'à un bungalow où ils avaient découvert des effets personnels du disparu. Cela a entraîné une intervention nocturne de grande ampleur de la brigade fluviale et cette triste conclusion vers 2h30 du matin. La famille de M. Summer a été informée et arrivera prochainement sur place. La traque de Josie Fair se poursuit. Depuis Ambleside, c'était Kate Mulligan, BBC News. Dans une reconstitution, une actrice assise sur le siège passager d'une voiture, la nuit, sort son téléphone de son sac à main après une notification sonore. Elle allume l'écran. C'est un message vocal. Elle appuie sur lecture. Un bandeau apparaît. Message vocal envoyé par Josie Fair à Alix Summer, 5 minutes avant que la police ne lui apprenne la découverte du cadavre de son mari. Alix, bonsoir. C'est moi. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ce qui m'est passé par la tête. Ce n'était pas mon intention. Pas du tout. Rien de tout cela. Je voulais vous aider. Vous montrer ce que pourrait être votre vie sans lui. Je voulais le garder loin de vous quelques jours, puis l'abandonner quelque part. Il aurait retrouvé son chemin. Mais après, tout a dégénéré, c'est un désastre. Et j'ai le rôle de la grande méchante, mais je ne le suis pas. Vous le savez, ça, Alix. C'est pour ça que je voulais partager mon histoire avec vous. Parce que nous sommes semblables, toutes les deux. Nous sommes des femmes idéalisées par leur mari décevant. Nous avons toutes les deux vécu dans l'ombre d'hommes horribles qui nous ont choisis pour ce que nous représentions, pas pour ce que nous étions. Nous avions toutes les deux plus à donner, plus à offrir. Et maintenant, Erin va se réveiller et raconter des choses à mon sujet qui ne sont pas vraies. Alix, il faut me croire. Ce sont des mensonges. La vérité, je vous l'ai racontée. Nous la connaissons toutes les deux. Vous êtes la seule personne au monde qui sache vraiment qui je suis, Alix. S'il vous plaît, racontez-leur que je ne suis pas mauvaise, que je ne suis qu'une personne normale qui a vécu des choses terribles. Et il y en a que je n'ai pas pu vous dire. Je voulais vous raconter la vraie fin de l'histoire. La plus sombre. La pire. Je n'ai pas eu le cran. Je n'ai pas réussi et j'aurais tant aimé. Parce que maintenant, à cause de cette erreur stupide avec Nathan, j'ai tout foutu en l'air. Maintenant, plus personne ne me croira. Donc, s'il vous plaît, n'écoutez pas ce qu'on va vous dire. Je suis vraiment désolée, Alix. Sincèrement. Au revoir.